Aujourd'hui, on va voir un sujet très délicat. Si on parle de ce sujet-là aujourd'hui, c'est pas avec joie et gaieté de cœur. C'est que Dieu veut affermir son peuple. Il veut mettre des barrières, il veut mettre des œillères à nos yeux. Il veut nous donner des principes. Dans l'ancien temps, il appelait ça des préceptes. Des principes. Pour qu'on garde ces principes-là. C'est des principes qui nous conduisent dans le chemin de la vie. Ces principes-là, s'ils ne sont pas appliqués, c'est sûr que vous risquez de tomber dans cela et vous en allez dans le chemin de la mort. Il y a des milliers et des milliers, des millions et des millions de personnes qui tombent dans ces péchés-là. Surtout aujourd'hui, il y a comme une barrière morale qui est débarquée. Tout le monde s'engage dans un mode de vie qui est le seul selon le monde, puis entraîne le monde dans, garde le monde dans une perdition, pensant que c'est correct, pensant que c'est pas grave, en prenant tous les principes de Dieu à la légère, surtout les seuls qu'on va voir aujourd'hui. Puis les chrétiens aussi sont pas exempts de cette tentation, de ce mouvement qui se présente, parce qu'on entend parler à droite et à gauche, par les nouvelles des fois c'est sur Internet, que des gens, des chrétiens, sont tombés dans ces péchés-là, puis que ces péchés-là les entraînent dans le séjour des morts, ce que la Bible nous dit, à moins qu'à une intervention de Dieu, que la personne sous la conviction du péché se repente et confesse et abandonne ce péché. Le mot péché est quasiment sorti de notre dictionnaire québécois, le dictionnaire Larousse. Le mot péché est encore là, mais il est quasiment sorti de notre vocabulaire. On pense que c'est pas grave le péché. Savez-vous qu'à cause du péché, ça a coûté la mort de Dieu? C'est pas une affaire à prendre à la légère, le péché. Dieu est obligé de venir en forme humaine puis mourir. Ça a coûté le prix de la mort de notre Dieu. Puis aujourd'hui, quand on entend parler de péché, c'est aussi grave le péché aujourd'hui que ça l'était il y a 2000 ans. C'est pas à cause que la mode change, puis que les pensées changent, puis que la morale change, puis que le monde, que la moyenne est rendue immorale, impudique ou adultère. C'est pas à cause que c'est rendu comme ça dans le monde que les chrétiens doivent dire « c'est plus grave, c'était à la mode dans ce temps-là, le péché aujourd'hui c'est pas à la mode, on n'a plus besoin de respecter ça ». On va voir des passages dans le Nouveau Testament, puis des passages dans l'Ancien. Il y a beaucoup de passages à les lire, puis je vais essayer de passer ça rapidement. Puis ça va continuer la semaine prochaine pour la suite, parce qu'il y a comme deux messages qui vont se compléter. Puis dans l'ensemble, quand on va passer cette étude-là, on va être formé, on va être renforcé, nos œillères vont être installées, on va savoir qu'il faut que je marche par là. Ça va nous donner un guide. Tout le message est basé. Écoutez, une chose que je veux vous dire. S'il y a des gens, peu importe que ce soit des gens ici dans l'Assemblée ou des gens qui sont sur Internet qui écoutent ce message-là, et qui se sentent touchés par ces paroles qu'ils vont entendre aujourd'hui, il y a une seule chose à faire, c'est que Dieu vous parle par sa parole. Il n'y a personne qui est visé directement, mais la parole est proclamée. Puis on ne peut pas taire la parole de Dieu. La minute qu'on va commencer à dire, ça, faut pas que je parle de ça, puis ça, faut pas que je parle de ça, puis là, on commence à trier, puis on va tout arracher les pages de notre Bible, puis il va rester rien que la page de Jean 3,16. C'est pas ça qu'il faut, là. Il faut prêcher la parole de Dieu. Parce que en écoutant la parole de Dieu, on se garde soi-même, puis on va garder aussi dans le salut ceux qui nous écoutent. C'est ça que Paul a dit à Timothée. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Yeshua qu'on est rassemblés maintenant dans ton nom, Seigneur, pour maintenant te remercier du bon temps de louange qu'on a eu ce matin, parce que c'était bénissant, et dans ta présence, pour être loué, de chanter, de célébrer, puis vive cette rosée qui est répandue en ce lieu, Seigneur, cette pluie qui descend, puis qui nous restaure notre âme. Mais aussi, le but qu'on est ici ce matin, c'est pour entendre ta parole, entendre tes préceptes, tes enseignements, ta vérité, afin qu'on soit gardé, afin qu'on puisse se renforcer dans cette vérité, puis en ayant des œillères à nos yeux, qu'on y aille de l'avant en obéissant à ta parole. On remet nos vies entre tes mains dans le nom de ton Fils. Amen, Seigneur. Alléluia. Le titre du message, le jugement des impudiques et des adultères. Hébreux 13, 4. C'est la base de mon message. Ça, c'est écrit il y a 2000 ans. C'est encore 100% d'actualité aujourd'hui. La parole de Dieu demeure éternellement. Elle n'a pas changé, puis elle ne changera pas en 2011. Tous ceux qui veulent suivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ vont vouloir adapter à leur vie les principes que Jésus nous enseigne, que la parole de Dieu nous enseigne, afin qu'on marche de plus en plus conforme à la parole de Dieu. Mais ces versets-là, ils ont été écrits pour notre instruction, parce que c'est des choses révélées par Dieu pour qu'on les entende. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas se taire sur ces enseignements-là. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Première chose qu'on remarque dans ce verset-là, c'est qu'il y a déjà un jugement décrété par Dieu. C'est déjà décrété qu'un jugement de Dieu, que Dieu jugera les impudiques et les adultères. On ne peut pas échapper au jugement de Dieu. On ne peut pas cacher rien de notre vie à celui à qui nous devons rendre compte un jour. Parce que la Bible dit, on va tous ressusciter, on va tous comparaître devant Dieu. Et Dieu a déjà décrété des jugements sur des situations que pour lui, c'est inacceptable. Dieu accepte dans ce sujet-là, là, parce qu'il y en a plein de péchés qui est parlé dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament. Mais dans ce verset-là, c'est plus le sujet qu'on parlait ce matin, Dieu a déjà décrété un jugement sur les impudiques et les adultères. Là, vous allez me dire, « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire impudique? Qu'est-ce que ça veut dire adultère? » On n'entend quasiment même plus parler. C'est comme si ce sujet-là, il n'existe plus. Mais on va vous dire, dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, ces sujets-là existent encore. Dans la Bible, ces sujets-là sont encore bien écrits noir sur blanc dans ma Bible que j'ai, parce que je peux vous le lire ce matin. C'est un verset qui vient de la parole de Dieu, écrit dans Hébreux. Le mot « impudique » qui est écrit là, ce que nous autres, on va dire « impudique », c'est quoi? Mais c'est le contraire d'avoir de la pudeur. Qu'est-ce qui est « avoir de la pudeur » ou « être impudique »? Le mot grec qui est là, qui a été traduit par « impudique », c'est le mot « porneos », qui pour nous, c'est la racine du mot « porno ». Puis le sens du mot, ce qui veut dire, c'est un homme qui, ou une femme, toujours le masculin inclut le féminin, qui prostitue son corps et le loue à la convoitise d'un autre. Ça peut être un prostitué ou un homme qui se complaît dans des relations sexuelles illicites ou qui fornique, la fornication. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Toute forme de sexualité en dehors des règles que Dieu a établies, puis la règle que Dieu a établie, la sexualité doit se vivre à l'intérieur du mariage. Toute forme de sexualité en dehors des liens du mariage, ça devient de l'impudicité, un manque de pudeur, un manque de retenue, un manque de... C'est même déclaré comme une prostitution. Si une personne couche avec une autre personne en dehors des liens du mariage, c'est de la prostitution. Des relations sexuelles illicites, ça sous-entend des relations sexuelles occasionnelles avec d'autres partenaires. Des occasions que les gens ont, oups, j'ai l'occasion de coucher avec ma secrétaire, oups, il tombe, puis c'est une impudicité. toujours dans, entre gens non mariés, parce que l'autre versant de ce point-là, être appelé adultère, c'est une personne mariée qui couche avec une autre personne qui tombe en adultère. Ça veut dire que ce soit une personne mariée qui couche avec d'autres personnes, ou que ce soit une personne non mariée qui couche avec des personnes ou qui ont des relations sexuelles, dans les deux cas, ça s'appelle impudicité ou adultère. Puis on va voir dans la suite de l'étude que Jésus, lui, il fait tout ça comme un bloc, que c'est la même chose. C'est une offense à Dieu, c'est un péché qui empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Le jugement de Dieu est déjà déclaré contre cela, que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Voici une déclaration formelle, une autre déclaration que Dieu a donnée dans 1 Corinthiens 6. Ça a été repris dans plusieurs passages. On retrouve ça dans l'Apocalypse, on retrouve ça dans Galates. Puis il y a d'autres passages qu'on parle de ces points d'enseignement-là, sur ces deux mots-là, impudique et adultère. 1 Corinthiens 6, 9, ça nous dit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. » Oups, ça c'est ce qu'on vient de lire. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est des gens qui ont des tendances, mettons un gars qui se pense pour une fille. Aujourd'hui, c'est une mode. Ils font des opérations, faire des... Soit c'est un travesti, un gars qui se transforme en femme, ou des transgenres, des gens modifiés médicalement qui font un gars avec une fille ou qui font une fille avec un gars. Modifiés médicalement. C'est que mentalement, il y a un péché en arrière de tout ça, c'est le péché de l'efféminé. C'est efféminé. C'est des gens qui sont rendus comme des femmes. Mais le contraire existe aussi, des femmes qui veulent devenir hommes. Dieu nous a créés dans une position, puis a mis des règles pour la reproduction. Le sexe n'est pas un péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève, tout était très bon. Le sexe a déjà créé. En autant que Dieu a dit aussi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux ne formeront qu'une seule chair. Puis que là, ça dit aussi de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Dieu a déjà décidé de bénir l'acte de mariage, d'union entre deux êtres, et que la sexualité dans le cadre du mariage, c'est biblique, c'est saint, ça devait servir à la reproduction et tous les avantages que d'autres ont aujourd'hui dans le mariage ensemble, que je ne veux pas rentrer dans les détails. C'est béni, la sexualité. C'est béni de la part de Dieu, en autant que ça reste dans le cadre mariage. La minute qu'une personne qui est mariée dépasse son cadre, son ailleurs, qui dépasse puis qui trompe sa femme, il est tombé en adultère, ou c'est une personne qui ne veut pas se marier puis qui veut coucher avec tout le monde pour avoir de la sexualité, c'est de l'impudicité, c'est de la prostitution que la Bible appelle. Puis aujourd'hui, il y a une grande mode qui court. Les gens se prostituent à tour de bras. Quand vous allez finir à l'étude, c'est pas juste aujourd'hui, on en voit la semaine prochaine, vous allez voir que la prostitution, l'impudicité, est partout. On en voit ces pancartes sur le bord du chemin, on en voit à la télévision, on entend à la radio, le monde en parle à tous les jours de choses impudiques, des choses impures, des choses qui ne devraient pas se parler entre les gens, puis que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est comme si les gens se laissent aller à rire de ça comme si rien n'était. On va voir des passages plus tard qui nous dit c'est à cause de cela que vient la colère de Dieu. Dieu veut fortifier ses enfants ce matin. Il ne veut pas qu'on marche là, écrasé à terre et qu'on dise « je suis perdu ». Non, il veut qu'on réalise qu'il y a un problème. Il n'est peut-être pas ici le problème, comme qu'il peut en avoir, qu'ils ont des problèmes. Mais peu importe le problème qu'on enseigne, c'est dans le but de nous corriger et de ramener qu'on marche dans le chemin resserré. On va aller lire un passage, un long passage. On a le temps en masse, on commence. Dans Proverbe 6. Ça, là, c'est un beau passage qui nous explique. Il est un peu long, mais quand tu passes à travers, ça te donne une image claire comment est-ce que Dieu trouve ça, puis comment est-ce que le piège peut être facile pour les gens de tomber dans ces choses-là. Proverbe 6, à partir du verset 20. Dieu nous parle. Mon fils! Qui va dire « me voici » ? Si on dit « me voici », ça veut dire qu'on sait que ça nous parle à nous. Là. Quand on lit la parole, il ne faut pas l'aller « oh, c'est pour lui. Oh, lui, ça va être pour lui. C'est bon pour lui, ce verset-là. » Mais non, c'est pour... Si tu es son fils, c'est pour toi. Si tu es sa fille, c'est pour toi. Mon fils, garde les préceptes de ton père puis rejette pas l'enseignement de ta mère. Ici, on parle que c'était dans une coutume, le peuple juif, de transmettre l'enseignement de Dieu de père en fils, de génération en génération. Puis c'était normal, tous les principes de Dieu, il y avait des classes d'école pour les enfants, puis les parents transmettaient ces instructions-là. Dieu veut qu'on fasse ça, Dieu veut pas qu'on fasse ça. Même nous, les chrétiens, on fait la même chose. On essaye de transmettre à nos enfants les valeurs chrétiennes. Dans ce passage-là, c'est comme si ça parle à quelqu'un qui est sous l'autorité de ses parents, qui connaissent la parole de Dieu. Puis il dit, « Mon fils, rejette pas l'enseignement de ta mère, puis garde les préceptes de ton père. » Ce qu'on entend de la parole de Dieu, qui vient de nos parents, « Oh, c'est mes parents, ils sont dans mes vieux jeux. Ça fait X temps qu'on parle de ça. C'est pas à mode aujourd'hui. Voyons, le Père évolue. » Dieu dit « Garde les principes. » Juste en 50 ans, 60 ans, là, dans le Québec, comment est-ce que la morale a évolué? Les principes de nos grands-grands-parents, qui étaient... Ils n'avaient pas d'adultère, ils n'avaient pas d'impudique dans ce temps-là. S'il y en avait un de temps en temps, il était quasiment lapidé, c'était la honte de la famille, puis il se faisait jeter dehors souvent de leur famille, il les plaçait dans un couvent, puis la fille qui est tombée enceinte, il les plaçait dans un couvent, puis c'était... Il n'en voulait pas de ces scandales-là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui dit rien à personne, c'est comme si tous les principes de nos parents, on les a oubliés. Surtout, c'était des principes qui venaient quand même de la parole de Dieu, même si c'est l'enseignement moral catholique. L'adultère et l'impudicité, que ce soit dans la religion que ça voudra, qui enseigne ça, ça fait quand même, on le sait, que c'est écrit dans la Bible, c'est des versets de la Bible. Il dit, au verset 21, « Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » On devrait considérer les instructions de nos parents, la morale sévère qu'ils avaient, on devrait considérer ça comme quelque chose de précieux. Puis quand on transmet ça à nos enfants, puis qu'on leur explique « le Seigneur veut ça » ou « le Seigneur veut pas ça », c'est des enseignements précieux que nos enfants devraient recevoir et écouter, puis regarder ça. Mon père, s'il dit ça, il dit ça parce que ça vient de la parole de Dieu, c'est quelque chose de grave. Je dois garder ça sur mon cœur comme quelque chose le plus important. Ce serait un diamant gros de même, ça serait-tu précieux à ton goût? Je pense pas qu'on le laisserait traîner sur l'armoire. Puis n'importe qui passe en ira avec. Si c'est précieux, on serait attaché à ça, puis on en prendra soin, puis on essaiera d'enfermer ça une place sécuritaire, comme s'il n'y a rien de plus précieux que ça. Mais les enseignements de la parole de Dieu, les enseignements qui viennent de la parole de Dieu, ça devrait être quelque chose de précieux comme ça, parce que Dieu parle de conséquences. Il dit, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche quand tu es couché. Ils te parleront à ton réveil. La parole de Dieu, quand tu l'as reçue et tu en es attaché, elle revient dans ta tête. Quand tu es en train de prendre des décisions, il y a des versets qui reviennent. Tu bases tes décisions face à ce que Dieu dit. Car le précepte ou un principe est une lampe. Puis l'enseignement, c'est une lumière. Quand tu reçois des vérités révélées par Dieu, c'est comme ça t'illumine. Wow! Là, je vous éclaire. Là, je comprends qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis je comprends qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. On comprend pas ça quand on est jeune, pourquoi que nos enfants nos parents nous donnent des tapes sur les fesses, ou ils nous mettent à genoux, ou nous envoient dans notre chambre, parce qu'on désobéit. Mais il essaie de nous enligner puis nous faire comprendre que si tu marches pas dans le vrai, dans le, ce que je te dis, mais il y a des conséquences. Puis toute notre vie, ça va nous suivre. Les principes que nos parents disent, vole pas, là. T'as pas le droit de prendre ce qui t'appartient pas, puis de le donner, de le prendre ce qui t'appartient pas, puis t'en servir. T'as pas le droit de faire ça. C'est, faut que tu respectes les biens. Ça, c'en est un principe. Faut que tu respectes les biens d'autrui. Bon, mais. Puis on le sait qu'il y a des conséquences si quelqu'un ne respecte pas, puis il vole. Il va un dossier judiciaire, puis il sera moi sans prison, puis toute sa vie va être ruinée. Mais tous les enseignements de Dieu, ils ont un but. Verset 24. Les principes de Dieu, ils te préserveront de la femme corrompue ou de l'homme corrompu. De la langue doucereuse de l'étrangère. Qui est ce personnage? Une femme corrompue, là, c'est parce qu'on n'est pas encore sur le féminin, mais c'est autant sur le masculin. Une femme corrompue ou la langue doucereuse de l'étrangère. Qui est pour moi un étranger? Qui est pour moi une personne corrompue? Qui peut être sur ma route, puis c'est pas quelqu'un que je dois fréquenter ou avoir des relations plus poussées. Ça veut dire que si je garde la parole de Dieu et je garde les principes de Dieu, ça va me garder de tomber sur ce chemin-là, de rencontrer cette femme corrompue-là, de la femme étrangère. Je dois... Hein? Ouh, mais pour t'empêcher de la rencontrer, ou si tu la rencontres, tu te sauves en courant. Parce qu'on doit se sauver en courant. Je vais en parler dans l'étude ensuite. La femme étrangère, ça symbolise la femme qui n'est pas supposée d'être ta femme. Parce que celle qui n'est pas étrangère pour toi, c'est la celle que Dieu avait préparée pour toi. Ta femme que Dieu t'a préparée est pour toi. C'est pas une étrangère pour toi. C'est celle que tu maries, que tu passes ta vie avec. C'est la vraie. La seule que tu vas côtoyer tous les jours. Celle-là, il n'y a aucun problème avec. Mais il y a peut-être des problèmes de temps en temps, mais on s'entend. Il n'y aura pas de problème devant Dieu. Il n'y a que la bénédiction que Dieu veut donner à un couple uni par les liens du mariage. Tandis que la femme étrangère, c'est celle que tu n'es pas supposé d'avoir une relation avec. C'est pas celle que Dieu a préparée pour toi. Puis cette femme-là qui peut venir sur ton chemin, si elle te fait des avances, sachant elle aussi qu'elle n'est pas, que tu n'es pas son homme, elle est corrompue. Puis cette occasion-là que tu as comme d'aller coucher avec, ça va te corrompre, puis ça va te détruire. C'est ça que Dieu veut nous mettre en garde. Il dit, garde mes principes, garde ma parole, lis-les sur ton cœur, attache-les à ton cou, puis ça va être une lumière sur ton chemin, ça va t'éclairer, puis ça va te garder de la femme étrangère, de la femme qui a des paroles doucereuses. C'est quoi ça, des paroles doucereuses? C'est des belles paroles avec du miel dedans. Oh, t'es beau, toi! Là, il se fend les yeux. T'es mon homme. Je t'attendais, j'allais le voir dans la suite du texte, là, c'est exactement ça que Dieu dit. Quand c'est la tienne, elle a le droit de te faire des beaux yeux. C'est quand c'est pas la tienne, l'étrangère qui vient te visiter, puis elle essaie de te côtoyer, de te faire des avances. Puis là, toi, tu dis, whoop, une opportunité. Whoop, j'ai l'occasion d'aller vers une fille. Un trophée de plus. Je vais faire un score de plus ce soir, ça rajoute dans mes notes de me penser bon, que j'ai rencontré bien des femmes dans ma vie, puis il va dire, qu'un gars, j'en ai rencontré 300 à date. Parce que c'est juste ça, là. c'est pas la bonne, c'est juste un score additionnel, mais il y a des conséquences à ces scores-là. Vous allez le voir ensuite. Verset 25. « Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Même si ça sera la plus belle femme au monde, la plus moulée, parce qu'il y en a bien qui sont excités avec ça. Il y en a qui se font tout remonter, puis ils se font modifier pour être là encore plus pétard. Mais même si ça sera, nommez-la celle que vous avez vue, que vous pensez que c'est la plus belle au monde, même si ce sera la plus belle au monde qui vient vous voir puis qui vous fait des avances, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Si c'est pas ta femme, touche pas à ça. Hein? T'as marié à la plus belle, puis t'as bien fait, puis garde-la. S'il y en a une, ça la vote, puis c'est la plus belle, prenez-la tout de suite, gardez-la. C'est celle que Dieu vous a donnée. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Puis les clins d'œil, puis les petits sourires en coin, ça a de l'air bien beau, c'est toujours pour nous tenter, pour nous faire tomber. Car, verset 26, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Si quelqu'un va vers la femme prostituée, il va tout perdre les richesses que Dieu avait toutes les bénédictions, toutes les richesses que Dieu avait prévues pour lui, tu vas te réduire à n'être qu'une bouchée de pain. La femme prostituée, on va le voir dans la suite, mène à la ruine, à la destruction. T'as présentement une femme, c'est la tienne, prends-en soin, garde-la, elle va rester à tes côtés jusqu'à temps que tu meurs, ou qu'elle meure. Fidélité jusqu'à la mort. Prends-en soin, chéris-la, verse tout ce que tu as de toi pour la bénir. Laisse-toi pas séduire par l'autre qui s'en vient te faire des beaux yeux. Parce que tu vas tomber qui te reste rien qu'une bouchée de pain. Tu vas perdre tout ce que Dieu t'avait donné, ta femme, puis des fois même tes enfants, ta réputation. Des fois, il y en a quand même perdu leur job. Ils ont tout perdu à cause qu'ils ont été en adultère ou en impudicité. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas marié, mais attends celle que Dieu va te donner. Puis garde-toi pour elle. Conserve-toi pur pour goûter le meilleur de ce que vous allez vivre ensemble. Va pas vers des prostituées pour perdre des bénédictions que Dieu aura pu te donner avec la celle qui est supposée être la tienne. Il dit, verset 26, que pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Dans son cas, cette prostituée-là, même si elle aura des liens de mariage, elle s'en fout, et elle est là pour te tendre un piège. Verset 27. « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? » Son sein, c'est dans son ventre. « Ouvrez votre chemise, mettez le feu à l'intérieur de votre chemise. Est-ce que vous allez mettre le feu sans que vous soyez brûlé? » C'est ça que ça dit. « Est-ce qu'on peut jouer avec le feu? » Ça, c'est l'expression québécoise. Puis dire, c'est pas grave, mais si je le fais un petit peu, personne ne va le savoir. On peut-tu jouer avec le feu et dire, je me brûlerai pas? C'est ça que ça nous dit, dans ce verset-là. Verset 28. Quelqu'un marcherait-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. C'est ça que ça nous dit. Si nous touchons à une femme qui n'est pas notre femme, nous ne resterons pas impunis. C'est sûr que si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. C'est sûr que si tu vas vers une femme étrangère, tu vas recevoir un châtiment de Dieu. à moins que tu te repentes, puis que tu t'en détournes, puis que tu touches plus jamais à ça. Puis, tu sais, puis même encore, essaye-les pas pour voir si ça marche, ou si c'est facile de se remonter spirituellement. C'est pas facile. Parce que le péché nous aveugle, nous lie, puis nous enfonce davantage dans d'autres péchés, puis on s'en va vers le chemin de la perdition. Verset 30. On ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple, au septuple. Ça veut dire que même si tu verras un voleur en train de voler quelque chose, on ne le tiendra pas pour innocent. Même s'il avait faim, s'il se fait pincer en train de voler, la loi était, il va remettre 7 fois la quantité qu'il avait volé. Il donnera tout ce qu'il y a dans sa maison. Verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. L'ignominie, c'est de la honte. Puis du rejet. Et son opprobre qui est en cause de la honte ne s'effacera point. Ta réputation va être ternie aux yeux des justes, aux yeux de Dieu. Parce qu'il y en a qui s'en foutent de l'adultère et de l'impudicité. C'est pas grave, on prend tout seul qui part. Oui, mais c'est pas eux autres qu'on va en rendre compte à la fin. Si quelqu'un va vers une femme d'un autre puis commet un adultère avec une femme, il est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre, il va agir de la sorte. Si on a une petite idée qui nous vient, hey, je vais en profiter. C'est de la folie. Oublie ça, cette idée-là. Chasse ça. À moins que tu veuilles te perdre. Parce qu'elle dit, tu vas n'en avoir que plaie dans ta vie. La honte et l'opprobre ne s'éloigneront point de toi. Ta réputation va être faite. C'est ça que ça veut dire. Tout le monde qui va te regarder après, c'est lui l'adultère, puis c'est de même que ça se passait à v'là 100 ans, c'est lui l'impudique. Aujourd'hui, ils n'en font plus de cas, on en voit à tous les jours, tout partout. Ça ne veut pas dire que c'est plus accordé par Dieu, puis Dieu a déjà dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu va juger les impudiques et les adultères. On va continuer dans Proverbe 7, au verset 1. Mon fils, ça nous parle encore, retiens mes paroles et garde avec toi mes principes, mes préceptes. Là, c'est en train de nous dire, il faut que je les garde. C'est une répétition, là, parce que c'est important. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. C'est quelqu'un qui sait c'est quoi la prunelle de ses yeux? C'est ici, nos paupières. Garde les enseignements de Dieu comme la prunelle de tes yeux. On fait-tu attention pour ne pas manger une branche dans un œil? Je ne sais pas si vous faites attention. Moi, je fais attention. Ça ne m'intéresse pas de manger. Je garde mes yeux. Tu promènes quand tu travailles normalement en dessous d'un char. Mais là, tu te mets des lunettes pour savoir des miettes dans les yeux. Tu fais attention pour savoir des miettes dans les yeux. Hein? La rouille, tu es en train de boffer avec un grinder. Tu te mets des lunettes, tu fais attention. C'est normal de faire attention, c'est sage de faire attention, mais on devrait garder la parole de Dieu de la même façon, parce que c'est normal de vouloir pratiquer ce qui est juste. Ça nous protège. On devrait garder la Bible aussi importante que de faire attention à nos yeux. Il dit, lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur, les versets de la Bible. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie. Pourquoi j'ai besoin de tout ça? Ça nous répète encore la même chose que ça vient de nous dire dans le passage avant. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle c'est qui la femme étrangère? c'est toutes les femmes qui sont pas la tienne. Parce que n'est qu'une qui est la tienne, c'est la tienne. Les autres, c'est toutes des étrangères. C'est la même chose pour les hommes. On a une personne que Dieu a préparée d'avance pour nous, puis il n'y a rien qui doit nous désunir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Garde les paroles de Dieu pour qu'il te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Puis là, écoutez bien cet exemple-là d'une petite histoire qui s'est produite. Puis vous allez voir la conclusion. Il dit, j'étais à la fenêtre de ma maison. Je regardais à travers mon treillis et j'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près des angles, ça c'est les coins de rue, où se tenait une de ces étrangères, une prostituée. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée, et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans la maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les coins de rue, et elle est aux aguets. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Lui, ça donnait à passer, là, tout bonnement. Puis elle, qui s'en allait d'un bord, puis de l'autre, qu'elle cherchait une proie. Aussitôt que lui a passé, elle l'a saisi, puis elle l'embrasse. Tu fais le saut. Quand tu t'en attends pas, il s'en attendait pas. Et d'un air effronté, elle lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce, puis aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. » Elle dit qu'elle, elle disait, « Je devais faire un sacrifice d'action de grâce, puis son sacrifice d'action de grâce était d'embrasser quelqu'un. » Puis la personne qui était là a reçu le bec, un gros baiser, toute surprise, puis là, elle dit, « Je devais embrasser quelqu'un pour remercier Dieu, puis je t'ai trouvé, je t'ai embrassé. T'es une bénédiction de Dieu sur mon chemin. C'est pas par hasard que tu passes là. Je cherchais quelqu'un, puis je t'ai trouvé. Je peux t'embrasser, puis t'es là pour moi. » Wow! Hein? Il est revenu sur terre. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Quel hasard! C'était comme si c'était le destin qui venait de les réunir. La prostituée cherchait une victime pour trouver ce gars-là. Mais le gars, s'il n'est pas armé des principes de Dieu, il se fait séduire par ses discours. Je suis un béni! J'ai une opportunité! Je dois profiter de cette occasion! Une fille qui m'embrasse. Ça fait 3 semaines que je prie pour ça. 1 mois, peut-être 6 mois, peut-être ça fait 20 ans qu'il prie pour que quelqu'un l'embrasse. Puis il y a quelqu'un qui l'embrasse, c'est le destin qui les a réunis. Là, il continue à y expliquer, au verset 16. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis de fil d'Égypte. C'est beau. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Tout le monde cherche à vivre l'amour, hein? Mais croyez-moi, l'amour, c'est pas la sexualité. Ça n'a rien rapport entre l'amour et la sexualité. Mais tout le monde appelle amour faire l'amour. Ça n'a pas rapport, mais c'est dans la mentalité de tout le monde. Enivrons-nous d'amour. Ils ne s'aiment même pas, ils ne se connaissent même pas, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Il n'y a pas d'amour là. C'est rien que du sexe qui s'allume. Puis cette femme-là lui propose la couchette au premier rendez-vous. Puis il l'appelle un peu plus haut la femme adultère, la prostituée. Là, elle dit, Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. On va passer un bon temps. Mais laisse-moi t'offrir, ça, cette pensée-là. Viens avec moi, c'est écrit sur un papier, elle m'offre ça. Nous allons passer un bon temps, un bon moment ensemble. C'est exactement ça que j'ai vécu quand quelqu'un m'a... Là, j'ai répondu, je suis marié, désolé. Ouais, mais lui, il a pas compris ça, lui. Verset 19, qui est encore plus pire dans ses avances, cette femme-là a dit, « Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. » Là, ce gars-là, qui entend ces paroles-là, il vient de savoir en plus qu'elle est mariée. Puis il sait qu'il y a comme une sécurité. « Hey, voilà ma chance. Il n'est pas dans le coin, son mari. Il n'y a pas de danger que je me fasse pogner. » Verset 20. Il a pris avec lui le sac et l'argent. Puis il ne reviendra pas qu'à la nouvelle lune. Hey, il a pris l'argent avec lui, il est parti. Autrement dit, je suis tout seul à soir, puis j'ai pas d'argent. Tu feras même une bonne action en venant me rencontrer. Tu es en train de pourvoir à mes besoins. Mon mari n'est pas là, puis j'ai pas d'argent non plus. Viens avec moi, c'est une occasion qu'on profite un bon moment. Puis en même temps, tu vas combler mon besoin. Tu vas faire une BA en venant me voir. Ouch! Si le gars n'a pas de discernement, il embarque là-dedans, puis il pense bien faire. Tout est bien placé pour lui. C'est le destin qui est réuni. Verset 21. Elle le suivit à force de paroles. Elle l'entraîna, elle le séduisit à force de paroles, excusez. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. C'est ça qu'on disait tantôt, il va nous garder de la femme étrangère avec des lèvres doucereuses. Là, vous venez de voir un exemple de c'est quoi des lèvres doucereuses. Tous les beaux raisonnements qui semblent nous dire que c'est profitable de profiter de cette occasion-là, plein d'avantages, ça vaut la peine, tu as des bonus, tu fais un score de plus, puis tout, mais en réalité, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? Verset 22, « Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier. » Jusqu'à qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans le savoir que c'est au prix de sa vie. Une personne qui se fait entraîner dans une voie d'adultère ou d'impudicité, il est en train de se faire mettre une chaîne dans son cou, puis il est en train de s'en aller à l'abattoir. C'est le chemin qui te mène à la mort. Il n'y a aucun avantage à part que les petits feelings passagers qui vont demeurer 5 minutes. Après ça, ton âme est liée par un péché qui t'emmène à la mort. C'est au prix de ta vie. Ça le dit sans savoir que c'est au prix de sa vie. On revient au verset 24. « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. » Verset 26. « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. » Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, puis il descend vers les demeures de la mort. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Cette femme-là représente la prostitution, les adultères de l'ensemble de l'humanité. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Puis l'autre verset, « Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. » Quand on dit « nombreux », le mot grec, qui est là, pour, le mot hébreu, qui est là, veut dire aussi « ils sont grands, ceux qu'elle a tués. » Des hauts personnages Combien de fois qu'on a entendu des présidents des États-Unis qui tombent en adultère, qui a couché avec sa secrétaire, un autre qui est un grand de d'autres choses, un prédicateur américain, grand évangéliste qui est tombé avec sa secrétaire, un autre qui... Ils sont grands, ceux qui ont tombé dans les griffes de ce lien qui les entraîne à la mort. Puis même la Bible nous dit à nous autres que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Qu'est-ce qui nous différencie entre moi et une autre personne? Pas grand-chose. Je suis un humain, la même chose que tous les autres humains sur la terre. La seule chose que je veux qui me différencie des autres, c'est que je veux garder les principes, les préceptes de l'enseignement de la parole de Dieu pour me garder, afin que je tombe pas dans ces pièges-là. Celui qui n'a pas les principes de la Bible, puis que sa morale est complètement modifiée, puis il dit pas grave, puis là, il embarque là-dedans, c'est profitable, ça vaut la peine, tu le fais pas, t'es donc bien démodé, tout le monde le fait, fallait donc. On entend ça à tour de bras. L'amour libre, peace and love, puis l'amour avec n'importe qui, c'est ça la morale. Ça l'entraîne tous ces gens-là dans les demeures de la mort. Même si tu es chrétien, pense pas que tu es à l'épreuve des liens de la mort. Tu es sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais laisse-toi pas détourner de la foi pour t'en aller vers le péché qui va te détourner de Dieu. Pour cela, j'ai certains versets qu'on va aller lire rapidement. Quelqu'un qui se détourne du sentier de la justice pour se tourner vers les voies, dans ces deux textes-là, c'est de l'adultère et de l'impudicité. Dieu appelle ça de la rébellion. Même si tu aimes le Seigneur d'un côté, tu sais qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, mais le fait que tu veuilles te détourner de ses préceptes, ses enseignements, puis te tourner vers ces occasions, le destin, c'est pas Dieu qui a mis ça là, c'est le diable, le monde. Ta chair va être attirée, mais Dieu dit, résiste au péché, fuis le péché. 2 Pierre 2.1 nous dit qu'il y en aura de même parmi vous. Là, on parle de gens, là, dans ce contexte-là, qu'on va regarder dans quelques versets. Parmi nous, là, même nous autres, faut faire attention, il y en a parmi nous. Puis on va voir de quoi ce qui nous parle que parmi nous, au verset 9, 2 Pierre 2.9. Dieu réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté. Quand tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as demandé pardon, il t'a pardonné, il t'a donné le Saint-Esprit. À cause que tu as reçu le Saint-Esprit, tu deviens un enfant de Dieu. Là, Dieu nous dit dans sa parole, marche par l'Esprit, puis tu n'accompliras pas les désirs de ta chair. Marche par l'Esprit, puis tu vas être capable de combattre, puis de faire mourir les désirs de ta chair. Mais si tu délaisses la voie de l'Esprit, puis tu commences à accepter d'obéir aux désirs de ta chair, les sexualités, les débauches, les impuretés, les adultères, les impudicités, tu t'en vas dans la voie du séjour des morts, ça te sépare de ta communion avec l'Esprit-Saint, ta relation va s'éteindre, tu ne goûteras plus la présence de Dieu. Ça dit dans ce verset-là, les gens qui courent après la chair dans un désir d'impureté, la chair s'allume par un désir de plus en plus grand de courir vers les choses impures, puis pas juste dans le niveau de la sexualité, dans toutes sortes de formes. Puis Dieu dit dans ce verset-là qu'il réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Versets 14 et 15. En parlant de ceux qui sont au milieu de vous, qui pourraient avoir tombé dans ces choses-là, ils ont les yeux pleins d'adultère, puis insatiables de péché. Ça peut arriver qu'on soit chrétien, mais qu'on ne fait pas attention à notre vie, puis nos yeux sont pleins d'adultère. Tout ce qu'on pense, c'est de coucher avec les filles, de les déshabiller quand on les regarde, puis de courir après, puis de vouloir les toucher, puis de vouloir aller plus loin. Il y a du monde qui peut être assis dans l'Église, qui sont animés de cette pensée-là, Et quand je dis du monde, je juge pas personne, ça peut être n'importe qui, n'importe quand, qui commence à accepter ces pensées-là, puis que les yeux commencent à être attirés vers la prostitution, puis les péchés, puis les convoitises du regard dans la télévision, puis ainsi de suite. À regarder des films, chercher scènes de nudité, les yeux pleins d'adultère, puis insatiables de péché, ça veut dire qu'ils sont jamais rassasiés de continuer à chercher le péché. Au lieu de combattre, puis de s'en détourner, plus, puis plus, puis plus, puis c'est comme lié par un péché, puis il t'entraîne à toujours plus. La fin du verset 15, dans ce même passage-là, il dit, « C'est la même chose qui ont suivi la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'iniquité. » Tu peux commencer à arriver à faire comme Balaam, puis aimer, profiter de ce qui est péché, ce qui est iniquité, injustice devant Dieu. Puis commencer à t'attirer, puis faire comme Balaam, commencer à faire des choses parce qu'il aimait le salaire qui était proposé. Bien, je voyais aller le maudire, mais enfin, il n'était pas capable, mais il était attiré par l'argent. Puis tu sais, ça dit ensuite qu'il a fait des affaires pour essayer de que la malédiction tombe sur le peuple d'Israël. Bon, on ne touche pas à ce sujet-là. C'est faites attention de ne pas être attiré par les avantages du péché. C'est ça que ça veut nous enseigner. 2 Pierre 2,17, ça nous dit que ces gens-là qui sont attirés par l'adultère et le péché, ce sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Tu peux être assis dans l'église, là, puis te laisser entraîner à toutes tes passions sexuelles de péché, de débauche, pensant que tu es sauvé par la grâce, que tu as reçu le cadeau gratuit, puis que rien n'est grave, que le péché, bon, c'est pas grave, puis que là, courir après les corruptions, mais il dit là, la fin de tout cela, c'est l'obscurité des ténèbres sont réservées. Prenons garde, frères et sœurs, d'abandonner le Seigneur et d'être vaincus par le péché. 2 Pierre 2,20. C'est encore dans 2 Pierre, ce texte-là, relisez-le au complet, 2 Pierre au complet, là, au chapitre 2. Ça parle de ça, puis des convoitises qu'il y a dans ça. On le voit que ça s'adresse à des chrétiens, parce que ce verset-là, 2 Pierre 20, il parle de ça. En effet, c'est après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Si on s'engage de nouveau dans le péché et sont vaincus, ils disent leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas avoir connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. On voit que ce texte-là, de gens qui ont les yeux pleins d'adultère, ce sont des enfants de malédiction, au verset 14, ils aiment le salaire de l'iniquité, au verset 15, puis que c'est des fontaines sans eau, puis l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ça s'adresse à du monde qui ont connu le Seigneur, mais qui sont retournés dans le péché. Ils ont retourné dans le monde, puis ils ont été vaincus, puis il dit, la dernière condition de cet homme est pire. Il aurait mieux valu qu'ils connaissent rien, parce que ça va être pire comme jugement que d'abandonner après avoir connu. Puis il dit, il est arrivé comme il est dit dans un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée a été survautrée dans le bourbier. Si on retourne dans le péché qu'on est sorti, quand tu viens à Jésus, tu sors. Il te sort de là, il te déracine, puis il enlève, puis il te nettoie. En écoutant sa parole, il change ta vie, tu te sanctifies de plus en plus, tu écoutes de plus en plus sa parole, là tu sais c'est quoi que Dieu aime, que Dieu aime pas, puis tu marches de plus en plus fidèlement. Il te sanctifie. Mais à un moment donné, si on ne fait pas attention, le péché va venir, une petite tentation, des paroles bien belles, personne ne sait, je vois un avantage, tu profites de l'occasion. Tu viens de tomber dans un piège, dans un lien, tu t'en vas à l'abattoir, puis ça l'empêche de m'entraîner un autre. Puis là, à un moment donné, tu te livres à ta débauche, puis tu t'égares loin du Seigneur, puis l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Mais Dieu veut, Dieu peut et veut nous délivrer. Ça peut arriver qu'on ait chuté dans quelque chose. Il y a une différence entre se livrer et en être vaincu, puis là, quand tu es vaincu, tu n'as plus aucune force d'en sortir. Mais si ça arrive que tu aies été tenté puis tu as tombé, Dieu veut et peut te délivrer. Je Le prochain passage qui est en cours dans 2 Pierre, quand on a vu la destruction de la ville de Sodome et Gomorre, qu'est-ce qui se passait dans la ville de Sodome et Gomorre? C'était ça. Les hommes avec les hommes couchent ensemble, les femmes avec les femmes couchent ensemble, tout le monde se tripotait, il y avait des relations, puis sa place publique. C'était une débauche complète. Puis nous savons que Dieu envoyait un jugement pour détruire les villes de Sodome et Gomorre. Moi, avant, je pensais, ben Dieu a détruit parce que le péché était monté jusqu'à l'Éternel, puis là, Dieu en avait assez, puis je détruis ces deux villes-là. C'est pas pour ça qu'il a détruit ces deux villes-là. Dans 2 Pierre, ça nous dit pourquoi qu'il a détruit ces deux villes-là. Parce que dans ces villes-là, il y avait un personnage qui s'appelait Lot. Regardez 2 Pierre 2, à partir du verset 6. Dieu a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et qu'ils entendaient de leurs œuvres criminelles. Ce gars-là, Lot, c'est un homme juste que la Bible appelle ici dans ce verset-là, il était dans une ville complètement corrompue, puis ça dit qu'à tous les jours, il tourmentait son âme de voir toute la corruption qui se passait là. Puis ça dit au verset, suite le verset, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. » Puis au début du verset 7, il a délivré le juste Lot qui était profondément attristé. Voyez-vous, tout dépendant de ce que la manière ce que tu penses face au péché, tu peux recevoir soit un jugement ou soit une délivrance. Lot était poigné dans une ville corrompue, puis si lui, dans son cœur, il aurait dit, « Ah, oh, ben moi j'aime ça, être là-dedans, puis moi aussi je vais en profiter, puis on va avoir du plaisir. » Mais s'il aurait été un gars avec une attitude à profiter de tout ce qui est autour de lui, il aurait été lui-même jugé et détruit avec le reste de la ville. Il n'aurait pas été appelé juste, il aurait été appelé impie, pécheur, adultère, impudique. Il aurait été détruit avec le reste de la ville, mais lui, il ne voulait rien savoir. Il garda ses yeux et son esprit pas embarqué là-dedans. Ça dit qu'à tous les jours, il était tourmenté de voir toute la quantité de corruption qui se passait. Puis Dieu l'a délivré. Comment est-ce qu'il l'a délivré? Il a envoyé son ange. Puis il a dit à son ange, « Dis-y, ramasse tes affaires, ramasse ta famille, sortez d'ici. » T'es épargné. T'es un gars qui plaît à Dieu. Là, je parabole, là. T'es un gars qui plaît à Dieu. Tu marches dans les voies de Dieu, puis Dieu, il aime ça de te voir, puis Dieu est en train de te délivrer de ton épreuve. Ça fait des mois, ça fait des années que tu vis dans cette corruption-là. T'es tanné de vivre là-dedans, puis Dieu te dit aujourd'hui, t'es libre. Ramasse tes cossins, sors d'ici. Regarde même pas en arrière. Détourne-toi pas. Va-t'en. Sauve-toi. Parce que se détourner, c'est comme si tu dis « Mon cœur est encore attaché à tout ce qu'il y a dedans. » Mais tu ne peux pas être attaché au péché. Sodome et Gomorre, c'est une ville de corruption, puis le jugement de Dieu, tu as déjà proclamé qu'il était pour tomber sur cette ville-là. Sors de là, haïs ça premièrement, cette corruption-là, haïs ça. Laisse pas rentrer rien dans ta pensée, rejette tout ça, puis quand Dieu dit « Sors d'ici, sors de là. » Je vous dis, au début je l'ai dit, je vous le répète, Dieu va juger les impudiques et les adultères. Il n'y a aucun impudique ou un adultère qui va rentrer dans le royaume. Pas plus qu'un voleur, pas plus qu'un ivrogne, pas plus qu'un ravisseur. Il y a plein de versets qui en parlent, pas juste un, plein. On pense, oh, on a accepté Jésus, tout est beau, puis on profite de tout comme si rien n'était. Non, haïssez le péché, puis dites, je veux rien savoir de ça, moi je veux rester fidèle, même si tout le monde vit dans la débauche, moi je veux rester dans ce que Dieu me dit de marcher. Et Dieu dit qu'il va te délivrer. Tu vas le recevoir, la délivrance. Puis si tu es tombé, demande pardon. Parce que la Bible, elle nous le dit, Dieu ne ferme pas ses portes pour la grâce, pour la repentance. Si tu passes par la repentance, puis tu retournes à lui, il va te pardonner, il va te purifier ta vie, il va te sortir de ce que tu es en train de vivre, de ta chute. Dieu, c'est un Dieu qui a compassion si on se repent. Si on aime la débauche, puis on court dedans, on va rester là. C'est clair. Puis ça, là, cette attitude-là, dire « j'aime ça » ou « je vais décider d'haïr ça », c'est tout de suite ça se passe, on va le voir la semaine prochaine. Dans Jacques, ça nous dit « si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité puis qu'un autre le ramène, mais sache que tu as sauvé une âme de la mort. » Si tu ramènes quelqu'un qui s'est égaré de la vérité puis tu le ramènes, tant qu'il n'est pas mort, le gars, il y a encore une grâce qui est en cours ouverte, une occasion de revenir puis de dire « là, je veux plus, Seigneur, je te demande pardon, puis merci de me donner l'occasion de revenir dans le bon chemin. » Même si on a tombé, il n'est jamais trop tard, à moins que tu blasphémeras contre le Saint-Esprit, là, il n'y a pas de retour. À moins que tu recevras la marque de la bête, il n'y aura pas de retour. Mais pour les autres, tant que tu n'es pas mort, tu peux revenir à Dieu. Puis je finis avec un dernier verset dans 2 Corinthiens 6. Ça nous dit qu'enfants de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Puis comme Dieu l'a dit, il dit « j'habiterai puis je marcherai au milieu d'eux » en parlant de son peuple qui est le temple de Dieu. Puis Dieu a décidé de marcher au milieu de nous. Quand on se réunit ici, là, on est en train de louer le Seigneur. Dieu est au milieu de nous. Dieu marche. Dieu se promène dans l'allée. Puis il y a un autre verset, j'ai lu l'autre jour. Il célèbre son Père, Jésus. Il est présent au milieu dans l'assemblée. Puis il est là, puis il célèbre son Père. Il est présent. Dieu veut marcher au milieu de nous. Hey, c'est extraordinaire. Il dit, j'habiterai, comme dit Dieu, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Si ça t'intéresse, s'il y a un petit quelque chose qui te dit en toi, j'aimerais ça être un enfant de Dieu. J'aimerais ça être un serviteur de Dieu. Mais je sais que je suis pogné dans toute ma vie de tous les jours, puis je pratique des choses que Dieu aime pas, puis je suis attiré, puis le péché m'enveloppe. Je veux m'en sortir, je veux haïr tout ça, puis je veux changer de vie. Mais c'est ça que la Bible nous parle d'une nouvelle naissance. De recommencer à zéro. Il dit, si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes, c'est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle vie est devant toi si tu veux passer par Jésus. Si tu as une idée de dire, « Oh ben moi j'aimerais ça, prendre ce que Dieu a à m'offrir, d'être sauvé, d'avoir mes péchés pardonnés, de savoir que je m'en vais dans la vie éternelle, je veux recevoir ce salut-là. » Mais je veux que tu saches que Jésus, il t'appelle. Jésus, il frappe à la porte de ton cœur présentement, puis il dit, suis-moi. Tu veux être pardonné? Je veux te pardonner. Tu veux recevoir mon Esprit Saint? Je vais te donner mon Esprit Saint. Repends-toi. Demande-moi pardon. Détourne-toi de tes mauvaises voies, puis je vais t'accueillir. Je vais rentrer dans ta vie, dans ton corps. Je vais devenir en contact avec toi, je vais être avec toi tous les jours, puis il y a une marche qui va se dérouler à chaque jour en communion, un avec l'autre. Je vais te bénir, je vais te conduire, je vais te montrer le chemin. Si vous avez ça dans votre cœur présentement, on va faire une prière ensemble. Répétez cette prière-là, c'est une prière qu'on appelle une prière de repentance. C'est une prière comme la première prière qu'on peut faire à Dieu pour lui dire qu'on veut changer de vie, qu'on veut son pardon. Père Seigneur, je reconnais que ta parole est vraie. Et je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je viens d'entendre que Jésus a tout payé pour que je puisse être pardonné. Je te demande pardon. Je crois que Jésus a payé sur la croix pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Donne-moi ton Saint-Esprit pour que je puisse marcher en contact avec toi tous les jours. Et je te remercie, Seigneur, de ton cadeau gratuit d'être pardonné, d'avoir la vie éternelle. Je veux te suivre et te servir tous les jours de ma vie. Conduis-moi dans ton chemin. Amen. Si vous avez fait cette prière-là, sachez que Dieu vous entend. C'est pas à moi que vous l'avez faite, c'est devant Dieu. Engagez-vous à le suivre, soyez fidèles au Seigneur, persévérez jusqu'à la fin, et les bénédictions de Dieu sont pour vous. Amen.